Vous écoutez RTL.
RTL.
Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort ? Que devient-on quand on passe de l'autre côté ?
La curiosité est un vilain défaut.
Moi, je suis Sandy, et accompagnée de mon équipe, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, d'entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu.
Jusqu'à 22h,
nous sommes The Believers.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est bientôt la fête de la Toussaint qui, selon la, tradition catholique, précède la commémoration des défunts. Tout va bien se passer, Sidonie. L'occasion pour nous de se poser la question de leur présence parmi nous, les âmes défuntes. C'est ce que nos invités recherchent depuis des années. Bonsoir, Sandy Lagdar.
Bonsoir, Thomas.
Bonsoir.
Bonsoir, Jonathan Dallière. D'ailleurs, voilà, je vais réussir à prononcer votre nom, Jonathan Dallière. Vous êtes les créateurs de la série documentaire The Believers. Vous définissez-vous comme des chasseurs de fantômes?
Non, on utilise vraiment le terme enquêteur en paranormal, parce que chasseur, nous, on chasse personne, on mène vraiment l'enquête comme deux personnes qui veulent comprendre, veulent savoir exactement ce qui se passe. Et du coup, nous, voilà, on n'a pas d'appareils qui peuvent capturer ou chasser, on veut juste comprendre et donc
vous,
on mène l'enquête.
Ouais, vous aimez pas cette appellation aussi parce qu'elle est un peu péjorative, c'est ça ?
C'est un peu du folklore et nous on essaye vraiment de prendre la chose sérieusement et de donc on a chassé pour le coup on a chassé tout ce qui pouvait être à connotation farfelue pour vraiment prendre la chose au sérieux.
Donc on dit quoi, que vous êtes des enquêteurs paranormaux, c'est quoi la formulation alors de votre job?
Oui, enquêteur paranormaux,
c'est un métier. Enquêteur.
Pas vraiment pour la France. Après, c'est vraiment dès qu'on passe les frontières en Angleterre, aux États-Unis, là, il y en a énormément. Et c'est paranormal investigator. Et c'est pas ghost hunter. Après, c'est vraiment un métier.
Mais vous, tous les deux, vous gagnez votre vie aujourd'hui en France avec ce métier?
Grâce à la série, on réussit à s'en sortir parce que voilà, au départ, nous, on était dans l'audiovisuel, donc on faisait déjà des films et il s'est passé des choses dans nos vies et on a mis notre formation de réalisateur pour le bienfait de cette quête.
Jonathan, d'ailleurs, est-ce que vous êtes nombreux en France à mener des enquêtes paranormales ?
Non, pas énormément. Après, il y a plein de petites équipes. Il y a un sort de phénomène aujourd'hui il y a beaucoup de petites équipes qui se font sur YouTube. Je pense qu'Internet a permis de développer tout ça avec la liberté de création. Mais on va dire d'essayer de le faire professionnellement, non, pas beaucoup.
Alors, vous faites ça depuis combien de temps ?
Ça fait 3 ans que vraiment on s'est lancé là-dedans.
Et vos proches, comment ils réagissent quand vous dites on va devenir, chasseur de fantômes, enquêteur paranormaux?
ils voient vraiment plus.
Ils ont pété un plomb.
il y a eu de l'entourage, oui, franchement, qui nous l'ont dit. Après, moi, ma famille vraiment proche, ils me soutiennent vraiment. Et la famille de Jonathan aussi, la famille de Jonathan est très ouverte là-dessus, donc c'est cool. Et pour moi, ils voient plus le côté série, qu'on continue ce qu'on faisait déjà. On faisait déjà des films et on continue. Après, c'est juste le sujet qui, pour eux, ma maman, mon papa, lui, il a peur.
Vous disiez que c'était vos vies personnelles qui vous ont emmené sur ce chemin, sur ce métier d'enquêteur paranormaux. L'une de vos amies meurt, une de vos amies, Sandy, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
En octobre 2012.
Exactement.
Vous assistez à un phénomène étrange qui se déroule dans votre cuisine.
Exactement, oui. C'est vraiment par là que tout a commencé. En fait, moi, j'étais vraiment dans le deuil de mon amie. J'arrivais pas à remonter la pente. Et du coup, justement, comme je faisais déjà du documentaire, j'ai commencé un peu à m'intéresser à qu'est-ce qu'on sait de la mort aujourd'hui, en 2012, etc. Mais sans une seconde penser un jour appeler le monde des esprits. Et c'est vraiment juste, je recueillais toutes les informations de ceux qui l'ont fait dans le passé, La Belle Époque, Allan Kardec, etc. Et au mois de février 2013, donc en fait avec Jonathan, il faut savoir qu'on est en couple, hein, donc on vit ensemble, et lui voyait toutes les recherches que je faisais, tous les livres que je lisais sur le sujet. Et voilà, un pot de confiture a littéralement été projeté devant nous alors qu'on mangeait des crêpes le jour de la Chandeleur.
Comme un appel ?
On a vraiment pris ça, oui, comme un appel. Aujourd'hui, on sait que c'en est un, mais...
Vous allez nous raconter pourquoi dans un instant.
Effectivement, parce que des phénomènes comme celui-là, ils sont très rares, mais il y en a d'autres que vous avez vécu, vous allez nous les raconter. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Première radio de France.
RTL.
Rien que de penser d'y aller, j'ai un peu peur pour dire la vérité.
Qui n'aurait pas peur, quoi. Tu vois, c'est normal d'avoir peur. Mais moi, j'ai confiance en toi. Je suis sûr que tu peux le faire. Ok ?
La curiosité est un vilain défaut.
I know you're trying. Keep doing it. It's a very good thing.
Jusqu'à 22h,
Leslie travaille avec sa chienne Shay, un vrai Scooby-Doo entraîné à détecter et scanner les pièces à la recherche d'identités et qui, pour le coup, deviendra notre quatrième membre.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
À quelques jours de la fête des morts, on se demande si certains cherchent à entrer en contact avec nous. Ce sont les phénomènes paranormaux qui nous intriguent dans la curiosité. Pour en parler, un couple qui enquête sur ces esprits, Sandy Lacar et Jonathan Deyer. On vous entend dans cette mise en onde d'André Facetta. Vous réalisez et vous incarnez cette série, les Believers. Vous êtes des enquêteurs paranormaux. D'ailleurs, si vous, derrière votre poste de radio, vous dites « mais ça, c'est, je trouve ça vraiment étonnant, vous avez des questions que nous, on ne pense pas poser », n'hésitez pas à appeler au 3210.
Que vous soyez sceptique ou convaincu, on attend vos réactions, que vous soyez sceptique ou convaincu au 3210 sur RTL.fr et puis sur les réseaux sociaux aussi, la curiosité RTL.
Jonathan, d'ailleurs, on racontait tout à l'heure ce jour de février 2013 où des phénomènes étranges ont commencé dans votre appartement et notamment, vous étiez dans votre cuisine, vous êtes en couple tous les deux et ce pot de confiture a valsé quelques mois après la mort de votre ami Sandy. Ça a fait émerger chez vous d'autres souvenirs encore plus anciens. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Bah moi, ça a été un vrai retour en arrière parce que on va dire que pendant un peu une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, j'ai vécu pas mal de phénomènes en fait, et j'en avais vécu tellement que j'avais décidé un peu même complètement de me fermer à tout ça. Parce que c'est assez difficile de vivre avec ça dans notre monde, on va dire, actuel, quoi.
Quel genre d'événement, même si vous ne pouvez pas résumer une vie en une question, bien sûr.
C'est vraiment ce qu'on a vécu dans notre cuisine, c'est le phénomène poltergeist, et c'est les objets qui se déplacent, en fait. Mm-hmm. Donc ça, le fait, quand j'étais petit, j'ai eu une voix que je me suis mis à entendre et qui disait des choses assez difficiles vis-à-vis de ma famille, qui me demandait de faire des choses et tout. Donc ça a été, entendre des voix, voir des objets se déplacer.
Des sensations aussi ?
Oui, complètement, des sensations. De présence, de regard. Non, c'est.
Que vous aviez occulté, refoulé d'une certaine façon.
Oui, dès mon dernier, j'ai dû le vivre à 18-19 ans et à 20 ans, je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça.
Et en vous disant ça, ça vous a prémis ? C'est-à-dire que vous n'avez plus vécu ces événements-là ?
Oui, ça c'est vraiment. Après, je l'ai vraiment pensé, je l'ai dit à haute voix, je le voulais, c'était une vraie volonté. Donc on va dire que mon corps s'est fermé naturellement, quoi. Et après, voilà, c'est marrant parce que le destin, au final, m'a ramené vers ça, quoi.
Et donc, février 2013, ce phénomène de poltergeist, un objet qui se déplace tout seul. Bon, ok. Là, vous vous dites, vous faisiez déjà des films, vous vous dites, ça peut être l'objet d'un documentaire. Vous faites quoi ? Vous achetez du matériel de détection ? Vous vous équipez ?
Ah, pardon. Oui.
Matériel de détection ? Vous vous équipez ? Oui.
On a fait importer du matériel des États-Unis parce que là-bas, c'était déjà très développé. Donc voilà, on a cassé notre tirelire et on a fait importer tout ça. On a cherché aussi un lieu.
Pardon, mais le matériel de détection, c'est quoi en fait ?
Il y a énormément de matériel, honnêtement.
C'est des scanners des...
Alors, il y a des petits boîtiers en fait qui permettent de détecter les champs électromagnétiques, parce qu'on sait qu'en fonction des différences qu'il peut avoir, eh ben, ça peut peut-être aider au fait qu'il y ait une présence. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait une, mais ça peut aider en tout cas sur l'idée. Sandy utilise des baguettes en laiton, qui est l'idée des sourciers, en fait.
On en a reçu un ici même il y a quelques temps. Ouais.
Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre
À l'époque, on n'avait pas tout acheté. On avait juste acheté l'EMF pour détecter les champs électromagnétiques et une spirit box.
Voilà, et une spirit box, en fait, c'est une radio qui scanne extrêmement vite les fréquences AM ou FM. Et l'idée, c'est qu'une conscience, une entité, puisse passer à travers ces fréquences pour laisser un message. Et on l'a testé sur tous nos épisodes et ça marche dans 90% des cas, quoi.
Et il fallait une caméra, forcément, pour pouvoir enregistrer tous les phénomènes qu'on pouvait rencontrer.
Le premier lieu où vous vous rendez, on le connaît ici, puisqu'on a déjà fait une émission sur ce château. C'est le château de Fougeray. Sa propriétaire, Véronique Geoffroy, avait témoigné d'ailleurs dans l'émission. Vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots ce qu'ils vivent, eux, depuis des années, les propriétaires de ce château.
Justement, au départ, quand nous sommes rendus là-bas, c'était vraiment les prémices. Le château était vide, il n'y avait aucun meuble. Ça faisait que quelques années qu'elle l'avait. Elle ne savait vraiment pas du tout... ce qui se passait, elle se posait énormément de questions et il n'y avait encore pas eu tout, tous les enquêteurs, enfin toutes les télés qui étaient passées là-bas. Et du coup, voilà, on s'est rendu compte. J'ai tout de suite contacté Véronique. Je lui ai fait part de ce qui se passait, des questions que j'avais. Et elle m'a dit directement, ben venez, je vous ouvre les portes.
Mais c'est quoi l'histoire? Une petite fille qui serait morte?
Il y a eu plusieurs. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de personnages d'époque qui se sont succédés dans le château de Fougeray. Et tous, enfin beaucoup des propriétaires et des gens qui y sont passés sont morts de façon tragique. Il y a eu des suicides, des maladies. Voilà, le château de Fougeray, il a ce fort potentiel énergétique qui fait que...
Moi, j'ai un ami qui a enquêté là-bas, qui a tourné et qui a senti effectivement une présence surprenante, voire effrayante. Donc, je suis assez sceptique, hein, pour être très honnête avec vous sur ces phénomènes. Mais bon,
quand, mais vous avez expérimenté
quand j'ai quelqu'un
quoi,
de confiance qui me dit ça, je l'écoute. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Moi, ça a été pour moi la confirmation, parce que j'avais encore plein de questions en moi. Enfin, on a vu juste ce pot de confiture, donc je décide de mener cette enquête. La veille de partir au château, il s'est repassé des choses chez nous. Et le château, ça a été pour moi la confirmation. J'ai vraiment senti ce froid indéfinissable dans le couloir. Jonathan a entendu en temps réel une voix lui parler à l'oreille.
Elle vous a dit quoi, cette voix?
Bonjour.
Vous en souvenez?
Bonjour. Juste, c'était vraiment un petit bonjour, en mode je suis là, quoi. C'était vraiment pour montrer sa présence.
Vous savez qui vous parlait, cette petite fille, Alice, qui était morte dans les années 20?
Non, c'était un homme. Pour moi, c'était sur un homme, même on l'entend à la voix quand même dans l'intonation, dans l'épisode on l'entend, mais...
Alors, quand vous entendez cette voix d'homme, vous dites, mais j'ai envie de savoir qui c'est, vous avez réussi
court,
à...
En fait.
Comment?
Il a couru parce que c'était...
La peur est là quand même.
C'était la première fois, pour moi c'était vraiment, je retournais dans tout ça, j'étais pas du tout prêt, parce que la plupart du temps, on se dit que ce genre de phénomènes vont se passer la nuit, et là ça s'est passé deux jours à 15h. Je marchais dans le couloir de façon banale, et ça m'est tombé dessus, et j'ai eu le réflexe de tout de suite courir, mais je m'arrête quelques secondes après, mais sur le moment où je pars en courant. Mais c'était vraiment notre première enquête. Aujourd'hui, j'ai vécu des choses 20 fois
plus. Vous êtes un vieux routard des fantômes maintenant.
Oui, voilà, c'est ça, bon. Exactement.
En tout cas, ce thème fait réagir nos auditeurs au 3210. Colette, qui nous appelle du Tarn, elle dit: ça me remue de savoir que d'autres personnes ont vécu la même chose que moi. Ça fait bizarre de vivre quelque chose comme ça. Il y a ceux qui y croient, et puis il y a les sceptiques. Vous pouvez tous réagir au 3210.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Mardi prochain, c'est la fête de la Toussaint, suivie mercredi du culte des morts. Et si certains d'entre eux cherchaient à entrer en contact avec nous, c'est une question qui heurte notre rationalité. C'est le métier de nos invités d'y répondre, même s'ils ne souhaitent pas être assimilés à ces Ghostbusters, à ces chasseurs de fantômes dont on entend à l'instant la musique du film. Sandy Lagdar, Jonathan Dayer, je rappelle que vous enquêtez sur des phénomènes paranormaux, vous en faites des films regroupés sous le titre The Believers. Tiens, justement, est-ce que vous croyez en Dieu? The Believers.
Ouh là, c'est la grande question, ça.
Bah oui.
On va pas forcément à la messe.
Est-ce qu'il existe? On va vous demander ça directement, parce que comme vous êtes...
Ça, c'est un débat entre
Sidonie
et moi, mais c'est autre chose.
Il nous a rien encore dit, mais...
Ouais. Donc vous y croyez ou pas?
On croit à une entité supérieure, à une énergie supérieure, à des guides, ce qu'on pourrait appeler des anges. Après, Dieu en lui-même, c'est vraiment la question. Pour l'instant, je me la pose pas forcément. Après, je vais à l'église pour me reposer, pour me recueillir, pour faire le plein d'énergie, mais je vais pas à la messe.
Mais je vous pose la question parce que vous avez un rituel de préparation avant d'arriver dans un lieu où vous allez possiblement entrer en contact avec des esprits. Et vous faites quoi dans ce rituel? Vous utilisez de l'eau?
On utilise de l'eau bénite.
Donc ça veut dire que vous y croyez quand même.
Sinon, on croit une entité. Après, Dieu, c'est un terme qui est tellement connoté, justement religieux. C'est comme The Believers. On veut pas être affilié forcément à la religion. Nous, juste, on croit en la possibilité d'un monde supérieur. D'un monde parallèle, la pluralité des mondes. Et on se protège.
On croit, Jonathan, dans le fait de croire aussi. C'est surtout ça. C'est parce que c'est de s'autoriser à croire. C'était ça la force du titre The Believers, c'est s'autoriser à croire.
Donc les Believers, ça veut bien dire les croyants. Et dans cette série documentaire, on voit que vous vous présentez l'un et l'autre aux esprits. Pourquoi c'est important de se présenter aux esprits?
Bah, Parce que je pense qu'il faut, prendre l'idée que c'était des humains avant. Ça, il reste juste leur conscience. Il n'y a plus le corps, mais il reste la conscience. Donc c'est comme quand on rentre dans une maison, on dit bonjour. Quand on sort, on dit au revoir.
On frappe à la porte avant voilà, d'entrer.
On part du concept qu'on parle à une conscience, à un être humain qui n'a juste plus de corps, juste son énergie est là.
Et donc il faut être poli. Garder le respect.
Voilà. Ouais,
mais comprend. Parfois les fantômes ne se présentent pas forcément. On a un auditeur qui nous écrit de Cambrai, il s'appelle Olivier. Il travaille dans un cimetière, il met les noms sur les tombes, c'est son métier. Et parfois il dit: j'ai l'impression qu'on m'épie. Ce sont des moments étranges, je suis un peu sceptique. Est-ce que c'est dans ma tête parce que je n'ai jamais rien vu?
Bah, sincèrement, la sensation de se sentir observé, pendant les enquêtes, c'est quasiment à chaque enquête maintenant. Et n'importe qui dans un café peut, enfin, cette sensation de sentir des yeux sur soi, on l'a tous connue. Je parle pas forcément d'une entité, mais cette sensation. Après, moi, j'ai envie de dire que c'est pas forcément dans sa tête. S'il inscrit des noms sur des tombes, pour moi, forcément, vous êtes observé et vivez le bien, monsieur, de ce qui vous arrive, c'est pas grave et vous êtes pas fou.
Olivier, merci à Olivier qui nous appelait du Nord. Fabienne, tiens aussi, qui réagit, qui elle appelle au 3210 depuis Toulouse. Elle demande: est-ce que tout le monde peut assister à des phénomènes paranormaux? Sous-entendu, est-ce qu'il faut des dons ou alors forcément le matériel dont vous parlez?
Moi, je dirais que tout le monde peut être ouvert à ça à partir du moment où il y a une ouverture d'esprit. C'est une question de ça. C'est un peu comme si on débloquait un cadenas déjà dans sa tête, de se dire ok, c'est possible. Ou en tout cas, même si je n'y crois pas, j'ai envie de rester ouvert. Peut-être que quelque chose un jour m'arrivera naturellement. Et ouais, voilà, c'est une question d'ouverture d'esprit et puis peut-être d'ouverture spirituelle. Il y a des choses comme la méditation qui peuvent vous aider grandement à rentrer en communication avec un défunt ou avec une énergie. Hein, c'est pas forcément des gens décédés. Donc la méditation, ça c'est top. Mais il n'y a pas besoin d'appareil. Nous, on essaye de faire des relevés, on va dire entre guillemets, scientifiques.
Parce que vous faites des films, parce que vous faites des documentaires.
Parce qu'on fait un documentaire. Donc l'idée, c'est d'essayer de prouver scientifiquement si cela est prouvable.
On archive tout ce qu'on... Ouais. Tout ce qu'on récolte.
Merci à Fabienne pour cette réaction.
2013 et votre première enquête au château de Fougeray. Vous avez visité de nombreux sites.
Oui.
Partout en France?
En France, en Angleterre, en Écosse, en Belgique.
C'est vous qui les choisissez ou c'est les propriétaires maintenant qui vous appellent pour savoir si leur maison, leur chemin, leur cave est tentée ou habitée?
En fait, l'idée de The Believers, nous, on est aussi très passionnés par l'histoire et on avait envie que chaque épisode soit basé sur un lieu historique pour pouvoir avant tout parler d'histoire et après, dans la seconde partie de l'épisode, on part vraiment en enquête. Donc, on a ce genre de contact, des gens qui nous appellent en disant « Chez moi, j'ai l'impression qu'il y a des entités, est-ce que vous pourrez pas venir ?» et tout. Mais c'est pas le concept de The Believers. L'idée, nous, c'est vraiment d'aller sur des lieux d'histoire qui sont chargés de 300, 500 ans, 1000 ans d'histoire et de pouvoir parler de cette histoire, et puis après peut-être de se confronter à cette histoire.
Alors un exemple, tiens, vous vous êtes rendu à Rennes-le-Château, dans l'Aude, sur les traces d'un abbé, l'abbé Saunière. Alors on a retrouvé un extrait d'un reportage d'une émission média sur Canal qui s'appelle Le Tube. On écoute un extrait de cette émission.
Les Français ont repris certains de leurs codes, comme les images à la Blair Witch et les séquences frissons. Obtiendront-ils ce genre d'image ce soir?
Ce jour-là, vous êtes donc à la recherche de quoi? D'un contact avec cet abbé. Pourquoi cet abbé? Pourquoi ce lieu?
Moi, j'ai toujours été fan de Rennes-le-Château, de celui bien avant d'être dans le paranormal. Ça fait des années que je lis tout ce que je trouve. Enfin, juste avant, vous étiez sur... avant nous, vous avez reçu quelqu'un pour parler d'Inferno. Mm-hmm. Dan Brown, il a écrit Dan Vinci Code, qui est relié aussi à Rennes-le-Château. Rennes-le-Château a fait couler tellement d'encre.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce château? C'est une histoire d'un trésor, c'est ça? Un abbé qui a caché un trésor?
C'est un abbé qui aurait trouvé un trésor. Il aurait trouvé plusieurs choses, des parchemins. Et à la suite de ça, il a un peu refait tout son presbytère, il a construit une villa, il a construit une tour, et c'est vraiment, c'est incroyable.
On se demande d'où venait l'argent, c'est
exactement.
Ça
exactement,
il y a un mystère autour de ça.
Il y a plein de choses, plein de secrets, il y a aussi il y aurait le tombeau de Jésus, c'est vraiment...
C'est une terre de légende. Quoi.
Oui,
ou un grand fourre-tout.
Voilà, ou du grand n'importe quoi, on va mettre beaucoup de conditions. exceptionnel à tout ça, hein, quand même.
Mais voilà,
en revanche, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Est-ce qu'il y a eu des phénomènes paranormaux quand vous y étiez?
La Villa Bethany, par exemple, qui est une des maisons qu'il a construite, l'abbé, on rentre dedans, on est étouffé par l'atmosphère. C'est vraiment, mais super, super lourd. On a vécu des phénomènes, peut-être pas aussi probants que ce qu'on aurait espéré. Mais après, il ne faut pas oublier que tous les jours, le site est visité par des centaines de personnes. Mmh. Donc, voilà. Mais oui, il y a. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses dans la Villa Bethany, en l'occurrence.
Alors, dans ce lieu et dans d'autres, vous dites que les miroirs jouent parfois un rôle important. On va expliquer pourquoi dans une minute sur RTL. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
RTL. Notre objectif était de découvrir si oui ou non une survivance de l'âme est bel et bien une réalité.
La curiosité est un vilain défaut.
Putain, je viens de sentir un truc dans mon dos, je vous jure. C'est comme si quelque chose rentrait dans moi, que je l'ai arrêté au moment où je l'ai senti, que j'ai eu peur.
Jusqu'à 22h.
Nous avons conscience que chaque miette d'information qui nous est permis de récolter est un réel cadeau que nous devons manier avec précaution.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est le monde des fantômes, des esprits que l'on explore sur RTL avec nos invités Sandy Lagdar et Jonathan Dayer, enquêteurs paranormaux, réalisateurs d'une série documentaire dont vous venez d'entendre des extraits, The Believers, les croyants, diffusés sur les chaînes du groupe Canal. Il y a un objet que l'on retrouve souvent dans vos enquêtes, dans vos récits, c'est le miroir. Il sert à quoi ce miroir dans le monde des fantômes et des esprits ?
Pour l'instant, ça reste une hypothèse, mais plus on avance, plus elle commence à grossir quand même et à se confirmer que c'est un portail pour l'autre monde de pouvoir rendre. Ce serait un peu un pont, une porte d'entrée.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
On a enregistré plusieurs phénomènes et qui commencent à. Mais ça, ce sera sur le prochain épisode qu'on va pouvoir le découvrir, notamment à Rennes-les-Châteaux. Et c'est aussi.
Quel genre de
phénomène? Ça a commencé.
Quel genre de phénomène pour qu'on comprenne? Parce que c'est vrai que là, on a du mal à voir.
On filme souvent des sphères lumineuses, mm-hmm. Que souvent les gens peuvent appeler orbes, mais nous, on appelle ça sphère lumineuse. Et en fait, de plus en plus, on est en train de remarquer que quand il y a un miroir, les sphères lumineuses ne viennent que de ce miroir. À aucun moment c'est d'un autre endroit, à chaque fois elle rentre ou elle sort du miroir. Donc c'est un phénomène assez étrange à voir, et on en a encore filmé un donc à Rennes-le-Château, et l'image est assez impressionnante. On a une boule lumineuse qui sort du miroir.
Et ça voudrait dire quoi, que les fantômes passent par les miroirs? C'est comme une porte d'entrée pour eux?
Je pense.
C'est ce que vous avez cru comprendre lors de cette première expérience en 2012, c'est
voilà,
ça
En fait c'était 2013.
En 2013, oui.
Début 2013, quand on s'est renseigné, parce qu'au départ on est un peu démunis face à ces objets qui bougent chez nous, et donc on s'est tourné vers plusieurs personnes, et très vite on nous a dit il y a un miroir chez vous, et ça passe par le miroir. Et effectivement il y avait un miroir chez nous,
dont un miroir ancien.
Oui, exactement, mais ça faisait 15 ans que je l'avais acheté quand j'étais à la fac sur un marché, et on s'est rendu compte qu'en fait quand on l'a retourné, qu'il y avait une date dessus qui était 1852, et du coup aujourd'hui le miroir il est à la cave et plus rien ne se passe chez nous.
Donc d'accord. Voilà, après, scientifiquement, comment expliquer ça?
Alors, c'est une question que j'allais vous poser, parce que j'ai regardé des extraits de vos films. Moi, je suis toujours gêné par ce qu'on rajoute, parce qu'on sait, ici, Denis et moi, comment on fait de la télé. Donc, on rajoute du son, de portes qui grincent, des musiques un peu inquiétantes, etc. On crée une ambiance, mais voilà, c'est...
Comme
c'est,
nous ce soir, à la curiosité.
C'est aussi ce que demandent les diffuseurs, donc je comprends très bien que vous fassiez ça. Mais est-ce que vous avez cherché à faire expertiser vos images?
Déjà, je tiens à signaler que nous, on est vraiment indépendants. Donc, en fait, notre diffuseur ne nous impose rien. Mmh. Donc, The Believer, c'est vraiment une série.
Donc, c'est vous qui décidez de rajouter ces musiques et ces portes qui grincent.
Et c'est nous qui décidons de ne pas les rajouter. Donc, il n'y a aucun bruitage.
Bon, ok. On ne va pas faire un débat là-dessus. mais c'est pas très grave. En revanche, est-ce que vous avez cherché à faire expertiser vos images?
Alors, on a cherché à le faire expertiser. On a trouvé un labo qui était prêt à le faire, sauf que tout est payant. Et si on voulait faire expertiser tout ce qu'on voulait, ça nous coûtait un peu plus de 10 000 euros.
Ah oui,
donc
c'est
pour
cher,
l'instant,
oui.
C'est un peu hors de notre budget.
Ça n'intéresse pas les scientifiques? Parce que c'est une question essentielle qu'on est en train de poser.
On est à la radio.
Qu'on soit sceptique ou croyant, c'est une question essentielle. Donc ça n'intéresse pas les scientifiques d'expertiser ces images.
J'ai essayé de me tourner vers le CNRS. Pour l'instant, non, ça ne les intéresse pas. J'ai essayé vers le gouvernement.
C'est dommage.
Ce n'est pas la priorité.
Bah, je pense aussi que la science est quand même très intéressée par ce qui d'abord peut lui rapporter de l'argent aujourd'hui. Donc, est-ce que les fantômes, ça rapporterait de l'argent?
Mais alors, bah, oui, le nombre de gens qui voudraient rentrer en contact avec des proches disparus, je peux vous dire que ça rapporterait des sous. Oui.
Non, mais c'est vrai que la question qu'on se pose, moi par exemple, qui suis complètement béotienne dans cet univers-là, j'ai envie de vous dire, mais quelles sont les preuves avec les heures de films que vous avez pu faire? Est-ce que vous avez des preuves intangibles, par exemple l'enregistrement d'une voix, comme vous avez pu entendre au château de Fougeray, des images qui sont... on se dit, bah oui, en effet, c'est un fantôme qui parle là.
Ben oui, on en a, mais après, voilà, comme...
ce sont des interprétations.
Thomas peut dire qu'on a rajouté ça puisqu'on fait de la télévision. Donc, nous, on le sait que toutes nos images sont 100% authentiques, qu'on n'a jamais absolument rien truqué. Et des voix, alors qu'il n'y a personne dans la pièce, on en a enregistré différentes. Des voix de femmes, des voix d'hommes, des voix d'enfants, dans différents lieux, dans différents pays. Et oui, on a enregistré...
C'est, je vais faire mon empêcheur de tourner en rond et mon sceptique, mais on a écouté tous ensemble un extrait d'une de vos émissions. Y a une voix qui dit, soi-disant, je me sens observé. On l'a écouté une fois, deux fois, dix fois. Nous, on n'arrive pas à l'entendre, ça. On entend un bruit, on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc comment vous pouvez dire que... En plus, ça se passe dans un château à l'étranger, en Angleterre ou en Écosse, je ne sais pas. On vous parle en français, soi-disant. Enfin, c'est compliqué d'être sûr. Moi, je vous fais confiance comme ça sur votre bonne mine. Mais la voix, elle n'est pas audible pour le téléspectateur.
Après, nous, on analyse les images. C'est ce qui nous semble. On n'est pas catégorique aussi. On installe, on dit, voilà, on pense que c'est ça. Après, voilà, on n'a jamais eu personne qui est revenu nous voir en nous disant, écoutez, moi, j'ai entendu et ça n'a rien à voir. Au contraire, on a souvent, dans 80% des cas, les gens qui reviennent vers nous.
On en a plusieurs. Là, vous en avez choisi une, mais on en a des très claires. On a, par exemple, un super amen dans le château de Puy-Martin, où celui-là, tu ne peux pas ne pas l'entendre.
Ah, je n'ai pas entendu celui-là, vraiment, j'ai pas eu cet extrait.
Il sonne clair comme de l'eau de roche. On en a
comment
plusieurs.
Vous les captez, tiens, ces voix, ces sons?
Certaines sont directement enregistrées par la caméra. Et ouais. C'est parce que tout ce qu'on enregistre, il faut tout analyser après. Mmh. Donc, beaucoup de choses, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, et c'est tout enregistré par la caméra. Donc, ça prend du temps aussi d'analyse.
Et qu'est-ce que vous comprenez, vous, je sais que vous avancez petit à petit dans vos enquêtes paranormales, mais qu'est-ce que vous comprenez de ces esprits ou de ces fantômes qui seraient là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont coincés comme entre deux mondes, ou alors ils vivent autour de nous? Quelle est votre théorie?
Moi, en tout cas, pour l'instant, ma théorie, c'est qu'il y a un peu de tout. On se retrouve avec des consciences qui sont, elles, bloquées parce qu'après un suicide, après une mort tragique, c'est soudain, en fait. Et la conscience n'a pas le temps de réagir et de comprendre sa propre mort. Donc, elle reste là. Le temps d'une certaine période, ça, après, nous, on ne sait pas. Là, c'est ce qu'on cherche à comprendre, comment ça fonctionne. Et après, il y a ces consciences qui aiment avoir plaisir à retourner sur les lieux. Parce que tout est à la base d'émotions. Et si on a un amour pour un lieu et qu'on ait encore une énergie...
Ou des personnes.
Ouais.
Des personnes.
Bon, merci en tout cas, merci à tous les deux. Et on invite nos auditeurs à aller chercher sur YouTube ou Dailymotion vos films.
Oui, faites-vous votre avis
voilà,
vous-même.
Faites-vous votre avis sous l'appellation The Believers. Merci beaucoup
merci à
tous les deux.
Vous écoutez RTL.